Bienvenue. Nous allons aujourd'hui débuter le deuxième module de l'enseignement La démarche sociologique, panorama des méthodes. Dans ce deuxième module, nous verrons tout d'abord ce qu'on appelle la délimitation du terrain d'enquête. Il s'agit donc de pouvoir circonscrire quelle va être sa taille, sa durée, l'espace géographique qu'il peut circonscrire, etc. Nous allons aussi prendre le temps d'étudier comment est-ce qu'on détermine une population d'enquête, c'est-à-dire qui est-ce qu'on observe ou qu'est-ce qu'on observe. Enfin, toujours dans la perspective de mieux délimiter la population d'enquête, nous travaillerons sur les questions de l'échantillonnage. Donc, pour quelles raisons a-t-on recours à un échantillonnage, pardon. Ensuite, on travaillera sur l'échantillonnage probabiliste et sur l'échantillonnage non probabiliste. Les raisons du choix de l'échantillonnage probabiliste et de l'échantillonnage non probabiliste seront également évoquées. Donc, déterminer un protocole d'enquête. Premier point, donc, circonscrire le terrain d'enquête. Donc, il s'agit de déterminer les limites de l'investigation au niveau géographique, social et temporel. Il peut aussi s'agir de déterminer d'autres limites qui correspondent à des situations très particulières, à une enquête spécifique. À ce moment-là, il faut en parler directement avec votre tuteur ou votre directeur de mémoire pour voir ce qu'il est opportun de mettre en avant dans l'écriture de votre protocole d'enquête. Quoi qu'il en soit, circonscrire un terrain d'enquête suppose de le penser au regard du questionnement, des objectifs de l'enquête et également de l'hypothèse ou des hypothèses qui ont été posées préalablement dans le cadre de la problématisation. Je vous rappelle que nous avons vu tout ce qui concerne la problématisation dans le cours précédent. Deux grandes situations surgissent à ce moment-là de la réflexion. Vous pouvez être dans une première situation où il s'agit finalement d'étudier un phénomène très singulier, très spécifique à un terrain et qui a priori n'est pas particulièrement reproductible ou observable ailleurs. Ou alors, le cas de très loin le plus classique est celui d'une étude de processus sociaux qui sont, eux, transversaux et donc absolument reproductibles et observables dans une multitude de milieux ou de terrains. Lorsque l'enquête porte sur un phénomène très singulier, très spécifique, très souvent, la dénomination recherche ne sera pas mobilisée. On parlera plus particulièrement d'études. Dès que les résultats ne sont pas généralisables, on parle très rarement de recherche. Bien, donc ensuite, déterminer le terrain d'enquête lorsqu'il s'agit d'un phénomène singulier, très évidemment, vous allez enquêter sur le lieu sur lequel il est possible d'observer le phénomène en question. Dans la deuxième situation, la question de circonscrire le terrain d'enquête se pose, elle, puisqu'il s'agit de savoir à quel endroit vous allez observer les processus sociaux transversaux que vous avez choisi d'étudier. Donc c'est seulement dans la deuxième situation que la question de la circonscription du terrain d'enquête pose question, mais dans les deux situations, il vous est demandé d'écrire, de rédiger et de penser la question de la délimitation et de rendre vos justifications de vos choix opérés. Enfin, dernière chose à bien penser en termes de circonscription terrain d'enquête, il faut éviter de choisir un terrain d'enquête qui serait beaucoup trop vaste, très simplement parce que vous n'auriez pas le temps d'opérer l'enquête avant de devoir rendre vos résultats. Voilà, donc il faut être capable en réalité d'anticiper les contraintes liées au processus d'enquête. Donc prendre en compte les contraintes. Il y a toute une série de limitations ou de restrictions du terrain d'enquête qu'il faut envisager de manière à produire des données que vous aurez le temps d'exploiter, d'analyser et d'interpréter pour rendre les éléments nécessaires soit à votre enseignant dans le cadre d'études, mais aussi à votre commanditaire dans le cadre de votre carrière professionnelle. Donc, prendre en compte les contraintes, voici une liste des plus classiques. Tout d'abord, la question de la commodité d'accès du ou des terrains d'enquête. Alors, peut-être point que je n'ai pas évoqué dans la diapo précédente, mais il est tout à fait envisageable que dans la deuxième situation, quand il y a des processus sociaux transversaux à enquêter, vous puissiez décider, parce que ça a du sens, donc parce que ça sera justifié, et notamment dans le cadre de l'échantillonnage, d'aller procéder à une enquête sur plusieurs terrains. Plusieurs terrains qui peuvent être pas du tout connexes d'un point de vue géographique ou temporel. Donc, penser les commodités d'accès, c'est penser tout simplement, notamment, vos moyens de transport, mais aussi le temps qui vous sera nécessaire pour aller jusqu'au terrain. Il faut penser la disponibilité d'autrui, de celui qui sera enquêté, etc., etc. Critères d'accessibilité des données. Alors, critères d'accessibilité des données, ça dépend donc tout d'abord des données que vous souhaitez enquêter. Il peut s'agir de données qui relèvent de la subjectivité d'autrui et auquel cas il s'agit d'individus, mais vous pouvez aussi être intéressé par les archives, par les documents professionnels d'un terrain, notamment les rapports d'activité. Vous pouvez être intéressé par les objets, les productions matérielles d'un terrain. Vous pouvez être intéressé par l'agencement architectural ou matériel des espaces de travail ou des espaces de loisirs ou des espaces domestiques. Bref, simplement, effectivement, accéder au logement personnel d'un individu ou lui demander une interview, il ne s'agit pas du tout des mêmes réactions de la part des individus et donc il faut penser cette accessibilité de manière à pouvoir proposer à l'enquêté ou à l'institution dont vous voulez recueillir les archives ou les documents professionnels, un discours, produire un discours qui permettra à ces enquêtés ou ces institutions d'accepter de vous donner l'accessibilité aux données qui vous intéressent. Prendre en compte les contraintes, c'est aussi réfléchir à la question de la fiabilité des données, parce que bien évidemment, si vous opérez une demande de données de manière un peu vécue comme brutale par l'institution ou comme intrusive par l'individu, vous avez de fortes chances tout d'abord de ne pas accéder à l'ensemble des données qui vous intéresseraient, mais aussi que ces données soient retravaillées avant qu'on vous les transmette, ou que les gens réfléchissent longuement avant de décider de ce qu'ils vont dire dans le cadre de l'interview, et que par conséquent, le matériau soit tellement retravaillé par le terrain en amont qu'il ne puisse plus être considéré comme fiable. Donc il y a vraiment tout un travail de réassurance, de façon de présenter votre, on va dire votre éthique, votre déontologie, votre professionnalité, qui importe et qui permet d'accéder donc à des données qui sont fiables. C'est un critère absolument important. Donc il y a tout un travail hein, de relationnel avec le terrain en amont même de l'enquête. Vous avez les critères de coût de l'enquête, bien évidemment. Si vos terrains ont lieu à Strasbourg, à Lyon et à Paris, faut-il avoir les moyens de payer votre transport? Mais également, ça peut être des terrains d'enquête à l'étranger, des coûts d'hébergement, des coûts d'alimentation, etc. Donc il faut toujours penser les coûts pour pouvoir envisager si oui ou non il est raisonnable de mettre en œuvre ce terrain-là ou pas. Il y a aussi les contraintes en termes de charge de travail. Enquêter, produire une interview peut nécessiter par exemple un temps de transport de 2 heures et puis un entretien de 2 heures, plus le temps un minima relationnel de mise en confiance, de prise de connaissance les uns des autres, etc. Tout ça peut vous coûter un certain nombre d'heures de travail, mais il ne faut absolument pas oublier tout le temps qui suit en termes de traitement de données, d'organisation, de tri des données, et puis donc ensuite, une fois le traitement, l'analyse et l'interprétation. Donc, Bien envisager la totalité du temps qui vous sera nécessaire, la totalité de la charge de travail qui sera nécessaire, de manière effectivement à vous imposer une quantité d'interviews, de questionnaires ou d'observations qui soit raisonnable au regard du temps qui vous est imparti pour rendre votre mémoire ou votre rapport de recherche. Enfin, il faut aussi prendre en compte les moyens qui sont mis à votre disposition. Est-ce qu'une équipe travaille avec vous? Est-ce que vous avez des logiciels de traitement de données pour questionnaires qui sont performants, etc., etc. Donc, vérifiez que vous avez bien tous les moyens à votre disposition et surtout les moyens pertinents. Voilà, bien évidemment, d'autres types de contraintes existent et il s'agit donc de les penser en fonction de chacune des enquêtes. Chaque enquête ne ressemblera pas évidemment à la précédente. Une fois que la question du terrain est bien aboutie du point de vue de la réflexion, il s'agit donc de travailler davantage qui? Observer qui? Il s'agit donc de circonscrire, de déterminer quelle sera la population enquêtée. La population du point de vue de l'usage commun en français est souvent pensée en termes de personnes, d'individus. Du point de vue sociologique, du point de vue méthodologie d'enquête, le terme population peut référer à un ensemble beaucoup plus vaste et beaucoup plus varié. Il peut s'agir d'organisations, d'institutions, de situations, d'objets, voire de sons, d'images. Enfin, donc toute une variété finalement de choses récoltables. Mais qui elles sont par contre définies de manière très rigoureuse par des caractéristiques qui ont été préalablement choisies, donc au moment où on s'est posé la question des objectifs de l'enquête, de quoi ai-je besoin pour pouvoir répondre aux questions et aux hypothèses que j'ai préalablement posées. Voilà, donc une population est définie par des caractéristiques qui sont choisies en fonction des objectifs de l'enquête. Il s'agit donc de pouvoir définir la population. Cette population peut être constituée de plusieurs sous-populations. Par exemple, vous souhaitez enquêter sur la question de l'absentéisme au lycée. Il peut être opportun de recueillir l'avis d'une population qui serait celle des conseillers principaux d'éducation. Comme il peut être aussi pertinent d'interroger, bien évidemment, les élèves, ceux qui sont absents, ceux qui ne le sont pas. Et là, vous vous retrouvez donc avec plusieurs sous-populations qui chacune apportent des éléments d'information et de compréhension qui ne sont pas équivalents. Bien évidemment, le point de vue d'un CPE va vous apporter des éléments de réflexion sur des aspects institutionnels que probablement ne maîtriseront pas les élèves, qu'ils soient absents ou pas. Voilà, donc il s'agit du point de vue de la définition de la population d'être capable de dire quels sont les types d'acteurs que l'on souhaite rencontrer, quels sont les types de documents que l'on souhaite pouvoir consulter et à quel titre, sachant que effectivement le statut pour lequel est interviewé ou est recueilli un document est lié au type d'information recherchée. L'échantillon. Donc, une fois qu'il est déterminé quelles sont les populations, que ce soit des populations donc de documents, d'images, de sons, de situations ou d'individus, il s'agit donc de déterminer quelle sera la population mère et l'échantillon qui sera mis en œuvre. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un échantillon? Un échantillon est une partie, un sous-ensemble de la population mère. La population mère, elle, n'est pas la population qui sera enquêtée, c'est la population totale, c'est l'ensemble de la population qui concerne l'ensemble des unités qui correspondent aux caractéristiques que vous avez définies préalablement comme correspondant avec les objectifs de l'enquête. Ça veut dire, par exemple, que vous avez décidé que vous avez besoin, dans le cadre de cette enquête sur l'absentéisme au lycée, d'obtenir des éléments d'information sur les aspects institutionnels, sur les aspects expérientiels de l'absentéisme. Et par conséquent, ces deux types de critères vont vous permettre de dire, dans la population ou dans les populations que je vais rencontrer, il y a des critères d'inclusion. Les critères d'inclusion sont les individus qui ont des connaissances du point de vue institutionnel concernant les aspects absence au lycée seront interviewés. Par conséquent, les critères d'inclusion sont ces connaissances du cadre institutionnel. Et par suite, ça vous permet de déterminer qu'il peut s'agir des directeurs, des CPE, peut-être des psychologues scolaires, etc. Donc ça, c'est à vous de maîtriser les différents statuts et les différents types de connaissances que vous rencontrez dans le cadre de vos terrains d'enquête. Les critères d'exclusion, c'est qui ne sera pas interviewé et pour quelles raisons, ou quels sont les documents qui ne seront pas consultés et pour quelles raisons. Les critères d'exclusion peuvent être, par exemple, le médecin scolaire peut être exclu parce qu'il n'a ni connaissance des critères institutionnels, ni connaissance des éléments liés au fait de vivre l'expérience de l'absentéisme. Il n'est pas un élève. Voilà. Donc très, très couramment, pour définir une population, non seulement on dit à quoi elle doit correspondre en termes de caractéristiques, mais aussi quelles sont les caractéristiques auxquelles elle doit ne pas correspondre. Donc les critères d'inclusion et les critères d'exclusion de la population mère. Une fois cette population mère, c'est-à-dire cet ensemble d'individus ou cet ensemble d'unités définies, il est donc possible de dire mon enquête de terrain aura lieu auprès d'individus ou concernant des documents qui correspondent à la définition de la population mère. Mais très souvent, il n'est pas possible d'avoir une liste exhaustive de la population mère. Ce qu'on appelle une liste exhaustive de la population mère en méthodologie est très couramment intitulée base de population. Quand vous ne pouvez pas accéder à l'ensemble de la population mère, il devient utile d'échantillonner et donc de définir quelle sera la population qui sera enquêtée, mais d'une manière à rendre le plus fiable possible les données qui seront recueillies. C'est une des raisons pour lesquelles on peut procéder à l'échantillonnage. Une autre raison pour laquelle il peut être utile d'échantillonner, c'est généralement une question de gain de temps, parce que enquêter une population dans son ensemble, si elle est composée de plusieurs centaines, plusieurs milliers ou plusieurs millions d'individus, vous comprenez bien que il s'agit d'une entreprise absolument impossible en général à mettre en œuvre pour des raisons de moyens, de temps et d'argent. Donc échantillonner permet de réduire le gain de temps, permet de réduire les coûts, permet aussi de réduire la charge de travail. Par ailleurs, il n'est pas toujours utile d'enquêter auprès de la population mère dans sa totalité. Pour cette raison-là, donc, pourquoi faire davantage de travail que ce qui est nécessaire? L'échantillonnage peut permettre donc justement de ne procéder qu'à ce qui est pertinent au regard des objectifs qui ont été posés en amont. Ensuite, on vient de voir que ce n'est pas toujours envisageable, mais ce n'est pas non plus toujours raisonnable. Troisième raison d'échantillonner, diminuer la charge de travail, mais tout en essayant d'obtenir des résultats les plus fiables possibles. C'est précisément l'objectif qu'on poursuit lorsqu'on choisit l'échantillonnage représentatif donc de la population mère, mais qui permet d'obtenir des résultats extrêmement proches d'une enquête qui aurait porté sur la totalité donc de la population. Alors, la représentativité d'un échantillon. Un échantillon qui serait parfaitement représentatif de la population mère aurait deux caractéristiques. Tout d'abord, il serait exactement identique du point de vue des items l'identifiant que la population mère. Deuxièmement, Il permettrait d'obtenir strictement les mêmes résultats que ce produit lorsqu'on enquête auprès de la population mère dans sa totalité. Bien évidemment, un échantillon, à partir du moment où il n'est qu'un sous-élément de la population mère, ne peut pas présenter exactement les mêmes caractéristiques. Et par suite, ne peut pas permettre d'obtenir précisément exactement les mêmes résultats. Aussi, lorsqu'on envisage d'échantillonner, se pose toujours la question de la fiabilité de l'échantillonnage et dans quelle mesure l'erreur qui est produite est importante ou pas. Donc il y a tout un travail de réflexion qui doit être mené de manière à minimiser la marge d'erreur. Et donc un échantillonnage suppose une réflexion sur le seuil de confiance et la marge d'erreur de l'échantillon. Ces données-là, on ne vous demandera pas au niveau licence 1 de les maîtriser et d'être capable de les calculer. Ceci dit, vous avez envie d'avoir des compléments d'information ou même simplement d'être capable d'utiliser la question des marges d'erreur ou des seuils de confiance, vous trouvez dans la plupart des ouvrages de méthodologie de l'enquête sociologique des tableaux qui concernent la taille des échantillons et qui, au regard d'une taille d'échantillon, vous mettent dans la colonne à côté la marge d'erreur et dans la troisième colonne le seuil de confiance. Voilà, donc c'est simplement des caractéristiques que vous pouvez vous procurer en lisant un ouvrage de méthodologie et en accédant donc à un tableau d'échantillonnage. Choisir la population d'enquête. Donc vous avez trois grandes options qu'on vient d'évoquer. La population en son entier, c'est-à-dire enquêter auprès de l'ensemble de la population mère. Ensuite, vous pouvez opter pour un échantillonnage probabiliste. Et troisièmement, pour un échantillonnage qui ne serait pas probabiliste. De quoi s'agit-il? Travailler sur la population en son entier arrive plutôt rarement pour deux raisons. D'abord parce que la population se réduit rarement à quelques pages de documents ou à quelques individus à interviewer ou observer. Très couramment, la population mère est importante et par conséquent, on est dans l'obligation d'échantillonner, ne serait-ce que pour pouvoir mener à terme l'enquête en son entier. Ceci dit, il existe deux cas où il est possible d'investiguer sur la population mère. Le premier cas est justement lorsque cette population mère est extrêmement restreinte et que finalement on étudie ce qu'on a appelé tout à l'heure un phénomène très singulier. Par exemple, vous voulez savoir pourquoi dans ce centre d'hébergement et de réinsertion sociale, depuis une année seulement, on observe un taux anormal d'hébergés de sexe masculin. Alors que depuis 20 ans, la population a toujours été mixte. Voilà, vous voulez répondre à la question qui ne concerne qu'un tout petit terrain avec une douzaine d'hébergés et une dizaine de travailleurs sociaux. Il est possible d'interviewer l'ensemble de la population mère qui concerne cette institution. Deuxième situation dans laquelle il est possible d'enquêter auprès de la population mère, c'est lorsqu'il s'agit d'enquêter auprès de phénomènes qui ont été mis sous forme statistique. Lorsque vous voulez travailler sur la population française et que l'INSEE a déjà produit un ensemble de données quantitatives portant sur le phénomène que vous voulez étudier, il suffit de vous procurer, on va dire, un matériau qui est les statistiques de l'INSEE et de les retravailler dans leur sens pour répondre à vos objectifs d'enquête, vos questions, vos hypothèses. Donc là, c'est le deuxième cas pour lequel il est possible de travailler avec l'ensemble des données, parce que l'ensemble des données est déjà, on va dire, une réduction du réel très importante, puisque les statistiques ne sont jamais que, une restriction, de l'ensemble des nuances et des singularités qui existent dans le monde. Voilà donc les deux cas où il est possible de travailler sur la population mère en son entier. Donc, ce sont quand même des cas assez restreints dans la pratique du sociologue. Très couramment, l'enquêteur est amené à penser son enquête à partir d'un échantillonnage, soit probabiliste, soit non probabiliste. Nous allons donc travailler la question de l'échantillonnage probabiliste. Alors, l'échantillonnage probabiliste est un type d'échantillonnage qui est fondé sur des théories mathématiques, et en l'occurrence les théories de la probabilité. Il s'agit donc de penser un échantillonnage qui fasse que chacune des unités de la population mère ait la même chance d'être choisie et la même probabilité d'être choisie pour participer à l'enquête. Il n'y a donc pas de choix qui soit lié au sociologue dans la détermination de qui sera observé, interviewé, ou quel document, ou quelle image, ou quel son sera travaillé. Donc, quand il n'y a pas d'influence du point de vue du sociologue, et lorsque chaque unité peut être choisie avec la même probabilité d'être retenue, il s'agit donc d'un échantillonnage probabiliste. Il s'agit donc d'une technique qui relève du hasard. Et seul ce type d'échantillonnage peut prétendre à la représentativité. Sinon, il est estimé que l'influence du sociologue, de l'enquêteur ou d'une autre personne qui aurait travaillé au choix des unités enquêtées vient modifier les résultats obtenus dans le cadre de l'enquête. Donc un échantillonnage représentatif de la population mère est un échantillonnage qui relève d'une technique de choix liée au hasard. Ce type d'échantillonnage probabiliste est très utilisé dans les enquêtes qui visent à quantifier, qui visent à produire des statistiques. Mais il est possible également que des enquêtes quantitatives n'utilisent pas ce type d'échantillonnage et là pour des choix très pragmatiques en termes de matériaux recueillis. Par exemple, vous voulez précisément savoir pourquoi dans votre enquête sur l'absentéisme au lycée, vous vous êtes rendu compte que sur l'ensemble des élèves absents, il apparaît un certain nombre de types d'élèves, dont ceux qui sont absents pour des motivations liées au fait qu'ils investissent d'autres milieux sociaux, d'autres activités, peut-être professionnelles, bénévoles, qu'importe. Et vous vous rendez compte qu'il y a aussi d'autres types d'élèves qui, eux, sont absents pour des raisons liées à leur santé, etc., etc. Vous pouvez avoir envie de produire un paysage statistique de ces diverses populations pour arriver à mesurer quelles sont les grandes tendances et quelles sont celles qui sont importantes d'investiguer et quelles sont celles qui sont finalement mineures dans votre terrain. Donc de pouvoir pondérer l'importance de chacune des populations. Dans ce cas-là, vous pouvez être amené à faire une enquête dans un premier temps quantitative. Et pour autant, votre échantillonnage n'est pas représentatif, mais par contre, il cible des populations que vous avez repérées grâce à vos interviews préalables ou à vos observations préalables. Voilà, donc dans ce cadre-là, c'est un échantillonnage probabiliste qui va être mis au service d'une enquête en deux temps, un premier temps qualitatif, un deuxième temps quantitatif. Il y a un principe important à retenir en matière d'échantillonnage probabiliste, c'est que si on veut diminuer la marge d'erreur, si on veut augmenter le seuil de confiance, il est important de travailler sur la taille de l'échantillon la plus importante possible au regard des contraintes de l'enquête. Plus l'échantillon est important, plus la marge d'erreur est réduite. Il y a plusieurs types d'échantillonnage probabiliste. Il y a ce qu'on appelle le tirage au hasard. Alors, c'est un échantillonnage très simple à pratiquer, mais qui nécessite au préalable et comme prérequis d'avoir en votre possession une liste exhaustive de la population mère. En effet, il s'agit de mettre dans un chapeau, on va dire dans un chapeau, puisque c'est un exemple assez juste, l'ensemble des individus ou l'ensemble des unités qui pourraient être susceptibles d'être tirées, puisque participant à la population mère, et puis donc de tirer les yeux bandés dans ce chapeau, le nombre d'unités que vous avez décidé d'investiguer. Donc là, il s'agit d'un tirage strictement au hasard, les yeux bandés, la main dans un chapeau, etc. Vous pouvez bien sûr mettre ça en œuvre avec un logiciel informatique qui se chargera pour vous, comme pour le loto national, d'un tirage au hasard. Le tirage systématique, autre type d'échantillonnage probabiliste, nécessite aussi d'avoir comme prérequis une liste exhaustive de la population mère. Là, imaginez que vous avez décidé d'interviewer 10 individus, ce qui est très très rare hein, quand on fait une enquête avec un échantillonnage quantitatif, puisque généralement on vise plutôt d'avoir des grandes quantités de données pour pouvoir produire des statistiques. Mais imaginez dans un exemple, on va dire, plutôt rare, que vous aviez décidé d'interviewer 10 individus sur une population mère de 100 individus. Le tirage systématique consiste à tout d'abord, au hasard, décider d'un chiffre entre 1 et 10, et puis de tirer, imaginez que vous avez choisi au hasard le chiffre 2, le premier individu tiré sera le deuxième de la liste, puis le 12e, puis le 22e, puis le 32e, puis le 42e, de manière à obtenir vos 10 individus. Voilà, donc le tirage systématique est systématique à partir du moment où on a décidé, 1, de la proportion d'individus à retenir dans le cadre de l'échantillon, 2, du premier individu qui est sélectionné pour démarrer le tirage. Vous avez un troisième type d'échantillonnage probabiliste qui est intitulé tirage par quota. Le tirage par quota est très souvent utilisé. Pourquoi? Parce que précisément, il n'impose pas de connaître la population mère de manière exhaustive. Vous pouvez ne pas connaître l'ensemble des unités qui composent la population mère. Le tirage par quota est un tirage qui, par contre, présuppose une certaine connaissance de la population mère sur un certain nombre de variables. Ça peut être les âges, ça peut être le niveau de revenu, ça peut être le sexe, etc. Mais qui vous permet donc de caractériser de manière assez précise les différences qui constituent l'ensemble de votre population mère. Et donc vous savez, par exemple, qu'il vous faut 53% d'hommes et 47% de femmes dans votre échantillonnage final, qu'il vous faudra 42% de moins de 25 ans et 58% de plus de 25, etc. Donc vous avez une idée des caractéristiques et par conséquent, vous savez que par suite, il va vous falloir 3 individus de moins de 25 ans hommes et 2 individus de moins de 25 ans femmes, etc., etc. Et vous cartographiez ainsi l'ensemble des caractéristiques nécessaires pour produire donc par quota et en fonction des différentes caractéristiques, un échantillonnage qui corresponde aux caractéristiques de votre population mère. Point important, donc la taille de l'échantillon probabiliste, puisqu'on se l'est dit tout à l'heure, plus la taille est importante, plus l'échantillonnage, les résultats produits à partir de l'échantillon seront fiables. Donc, combien d'unités dans un échantillon probabiliste? Eh bien, ça dépend de la représentativité voulue. Vous pouvez donc estimer cette représentativité avec une table d'estimation, donc le tableau dont je vous ai parlé précédemment, que vous pouvez consulter dans un ouvrage de méthodologie. Si vous ne connaissez que très très peu la population mère, vous n'en avez ni la liste exhaustive, vous ne pouvez donc pas pratiquer le tirage au hasard ou le tirage systématique, et finalement, vous n'en connaissez quasiment pas les caractéristiques, vous êtes finalement un pionnier sur un nouveau terrain d'enquête. Il va donc falloir produire les premières connaissances sur une population mère. Dans ce cas-là, plutôt rare, il vous faut choisir, pour des raisons de fiabilité, un échantillonnage extrêmement important. On considère qu'on ne peut pas vraiment réduire en dessous de 75% de la population mère l'échantillon qui sera retenu pour un tel type d'enquête. L'échantillonnage non probabiliste. Donc, ce type d'échantillonnage, par choix, ne vise pas la représentativité de la population mère. On sait donc que les résultats qui seront obtenus seront à nuancer, ne sont pas fiables au sens où il ne correspondrait pas aux grandes tendances de la population mère. En tout cas, on ne peut pas en être certain. On ne peut pas être assuré du degré de représentativité. Cependant, un échantillonnage non probabiliste permet néanmoins de produire une connaissance qui peut être très intéressante parce qu'elle permet d'investiguer les significations, le sens que produisent les acteurs sur des situations vécues, sur des organisations, des dispositifs, et par suite donc permettre de produire ce qu'on appelle une connaissance qualitative. La connaissance qualitative est particulièrement prisée dans les sciences humaines et sociales. Elle peut être produite avant une enquête quantitative ou après, pour interpréter une enquête quantitative. Aussi, donc, il y a interaction entre quantitatif et qualitatif. Donc, l'échantillonnage non probabiliste est un échantillonnage qui permet de produire la connaissance qualitative, donc de produire des données qui sont riches d'un point de vue sémantique. Vous avez plusieurs types d'échantillonnages qualitatifs qui correspondent à des objectifs d'enquête particuliers. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle l'échantillonnage exemplaire. L'échantillonnage exemplaire consiste à mener une enquête sur des individus, des objets, des documents, des organisations, des situations, à titre d'exemple. Il s'agit donc d'études de cas. Et on choisit un cas parce qu'il est intéressant au regard des objectifs de l'enquête. Donc l'échantillonnage exemplaire, en général, ne pose pas particulièrement de questions et est très facilement justifiable. Vous avez également l'échantillonnage par quota. Donc vous avez une connaissance de la population mère, vous avez une connaissance de ses caractéristiques, vous n'avez absolument pas les moyens en termes de temps, d'argent, de logiciels, d'équipes à votre disposition, etc., de produire une enquête sur un échantillonnage qui serait probabiliste et représentatif, mais néanmoins, vous voulez pouvoir dire quelque chose sur les différents constituants de cette population, vous pouvez donc reprendre la technique de l'échantillonnage par quota. Simplement, votre échantillonnage sera extrêmement réduit et on ne pourra ni en évaluer un seuil de confiance ni une marge d'erreur. Mais néanmoins, vous pourrez prétendre au fait que votre échantillonnage est produit au regard des caractéristiques de la population mère. Ensuite, vous avez l'échantillonnage diversifié, qui peut être aussi un échantillonnage contrasté, qui est particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un échantillonnage qui vise à travailler sur les différents types d'acteurs ou les différents types de situations ou les différents types d'organisations, ça dépend de vos objectifs d'enquête, mais en tout cas qui travaille plutôt par typologie et qui permet de produire des résultats pour chacun des types, donc de permettre de discuter et de comparer les différents types. Donc c'est un type d'échantillonnage qui est particulièrement mobilisé dans le cadre des enquêtes sociologiques qualitatives. Enfin, vous avez l'échantillonnage dit boule de neige, qui correspond plutôt, on va dire, à une modalité d'entrée en contact avec le terrain. Il peut arriver qu'il soit très difficile d'accéder à un terrain simplement parce que, je vous donne un exemple très concret, vous voulez interviewer des personnes qui vivent à domicile, qui sont tétraplégiques, avec un niveau de dépendance uniquement avec un respirateur, donc qui ne peuvent pas respirer par elles-mêmes sans une machine 24 heures sur 24, qui emploieraient, sans passer par un prestataire de service, mais qui emploieraient directement des auxiliaires de vie. C'est le genre de population qu'il est très très difficile de repérer dans la vie courante, en général simplement parce que la liste n'existe nulle part. Ce sont des gens qui ne sont pas repérés par les institutions ou très mal. Donc la liste n'existant pas, vous ne pouvez pas a priori contacter les différentes unités de la liste et vous êtes, on va dire, soumis à une solution très pragmatique, certes, et efficace, mais une solution qui fait que vous avez une maîtrise très relative de votre échantillonnage. Vous allez contacter une première personne qui correspond à cette situation parce que votre grand-père la connaît ou parce que l'assistante sociale du quartier vous l'a désignée, etc., etc. Cette personne accepte d'être en contact avec vous. Vous la rencontrez, vous faites l'interview, etc. Et puis, vous lui demandez si elle connaît d'autres personnes dans sa situation. Si oui, elle va vous donner deux, trois contacts de ses amis ou de ses connaissances. Et c'est ce qu'on appelle un échantillonnage boule de neige, parce qu'à chaque personne rencontrée, vous lui demandez de vous aider pour constituer votre échantillon. Donc c'est assez aléatoire. En même temps, ça vous permet vraiment de rencontrer les personnes qui correspondent à vos critères d'inclusion et d'exclusion. Mais ceci dit, donc ça présente une difficulté. Vous n'êtes jamais sûr d'avoir le nombre requis d'individus ou d'unités a priori. Avant d'avoir terminé votre enquête, vous ne savez pas si vous obtiendrez la totalité de votre échantillon. Et puis c'est aussi aléatoire au sens où il peut arriver que un individu interviewé vous conseille une personne qui ne correspond pas du tout à vos critères et que vous ne le sachiez pas et que vous ne vous rendiez compte que ultérieurement. Voilà, donc c'est un échantillonnage qu'on essaye de rarement mettre en œuvre. Mais en même temps, pour certaines situations d'enquête, absolument nécessaire et performant. Quelle taille d'échantillon pour une situation non probabiliste? Alors, il y a un critère qui permet de déterminer la taille, on va dire, la plus intéressante de l'échantillon, qui est ce qu'on appelle le point de saturation. Le point de saturation, lorsque l'on met en œuvre une enquête qualitative, est repérable au fait que, au bout d'un certain nombre d'interviews ou au bout d'un certain nombre d'observations, vous commenciez à constater que finalement, vous n'apprenez plus rien de nouveau. Si au bout de 20, 30, 40 interviews, vous vous rendez compte que finalement, tout ce qu'on vous raconte aujourd'hui, se retrouve déjà dans un certain nombre de fois, dans un certain nombre d'interviews, et que ce genre d'effet se produit sur plusieurs interviews d'affilée, vous pouvez considérer que vous êtes arrivé à ce qu'on appelle le point de saturation. Vous n'obtiendrez probablement plus d'informations nouvelles, mais simplement articulées autrement dans un contexte singulier et personnel, celui de votre enquêté. Voilà, pareil quand vous observez systématiquement toujours les mêmes choses concernant vos objectifs d'enquête, il y a donc possibilité de constater un point de saturation en matière d'observation, de situation, d'organisation, d'individus, etc. Voilà, donc on arrête normalement dans le cadre d'un échantillonnage non probabiliste, on arrête l'échantillonnage quand on atteint le point de saturation, ce qui veut dire que pour travailler au mieux avec un échantillonnage non probabiliste, on ne sait pas a priori le nombre de situations à observer, ou le nombre d'individus à enquêter, ou le nombre de documents à analyser. Je vous propose de faire un petit exercice et de revenir sur l'exemple qu'on avait utilisé lors du précédent module, donc l'étude d'Émile Durkheim sur le suicide. Donc, je vous rappelle brièvement son projet. Émile Durkheim souhaitait trouver quels étaient les facteurs sociaux qui généraient le suicide dans les sociétés. Et son hypothèse était que le taux de suicide était fonction du degré d'intégration sociale des milieux. Alors, je vous rappelle qu'il ne s'agit pas du degré d'intégration sociale des individus, mais bien du milieu dans lequel vit l'individu en question. Donc, il s'agit d'investiguer des milieux sociaux, c'est-à-dire des sociétés, pour faire simple. Quel type d'échantillonnage a choisi Émile Durkheim, ou aurait dû choisir Émile Durkheim, pour mener à bien son enquête? À votre avis, donc première question à se poser, que vous vous poserez également quand vous montrez vos propres enquêtes et recherches, échantillonnage probabiliste ou échantillonnage non probabiliste? Et bien sûr, il faut être capable d'argumenter, de justifier votre choix. Une fois que vous savez quelle option vous prenez, dans les échantillonnages probabilistes, si c'est votre option, quel est le type d'échantillonnage choisissez-vous? Et pareillement pour ce qui est du non probabiliste, quel type d'échantillonnage choisissez-vous au regard de vos objectifs d'enquête? Donc dans l'exemple d'Émile Durkheim, Faut-il choisir échantillonnage probabiliste ou non probabiliste et pourquoi? Eh bien, l'enquête menée. Non, excusez-moi. Le projet d'Émile Durkheim est un projet qui porte sur une théorie très généraliste qui concerne l'ensemble des milieux sociaux et l'ensemble des sociétés. Pour lui, le taux de suicide est fonction du degré d'intégration sociale, c'est-à-dire qu'il considère que s'il démontre son hypothèse, on pourra considérer que ce principe est universel et valable pour l'ensemble des sociétés, l'ensemble des milieux au sein duquel un être humain peut se développer. Autant dire que le nombre de sociétés ou le nombre de milieux sociaux concernés par l'enquête d'Émile Durkheim est absolument invraisemblable. On ne peut absolument pas le chiffrer. Par conséquent, si vous ne pouvez pas avoir idée de votre population mère, ni en termes d'unité, ni en termes de caractéristiques, parce qu'il y a une variété de sociétés humaines dont probablement on ne connaît pas tout aujourd'hui, il n'est donc pas possible d'utiliser l'échantillonnage probabiliste. Donc vous avez des bonnes raisons de ne pas opter pour l'échantillonnage probabiliste. Durkheim, effectivement, ne l'a pas fait non plus. Voilà donc contraint d'opter pour l'échantillonnage non probabiliste, ce qui est extrêmement courant dans le métier de sociologue. Et donc il est extrêmement courant aussi donc de produire des connaissances qui ne peuvent pas revendiquer le fait d'être représentatives de la population mère. Et là, en l'occurrence, simplement parce que la population mère n'est pas connue et n'est pas caractérisée. Donc, échantillonnage non probabiliste pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Dans l'échantillonnage non probabiliste, quel type choisir? Est-ce qu'on choisit par quota? On vient de se le dire, on ne connaît pas les caractéristiques de la population mère, on ne peut donc pas choisir l'échantillonnage par quota. Échantillonnage par boule de neige est tout à fait inopportun puisqu'on ne pourra pas demander à une société de nous indiquer une autre société. Ça n'a tout simplement pas de sens. Il vous reste donc l'échantillonnage exemplaire ou l'échantillonnage diversifié. Étudier à titre d'exemple une ou deux sociétés présenterait peu d'intérêt puisqu'on ne pourrait faire aucune démonstration concernant l'hypothèse. On pourrait juste démontrer que pour cette société-là, effectivement, le principe marche. Mais la visée d'Émile Durkheim est beaucoup plus importante. Il a donc choisi l'échantillonnage diversifié qui lui permettait de comparer un certain nombre de sociétés existantes. Et en l'occurrence, lui, il a choisi les sociétés de l'Europe occidentale de son époque pour les comparer et pour montrer que finalement ce principe pouvait s'appliquer à l'ensemble d'entre elles, ce qui lui permettait d'extrapoler sur la vraisemblable opportunité d'adhérer au principe que le taux de suicide dans une société est fonction du degré d'intégration sociale de ladite société. En conclusion de ce module, nous pouvons dire que nous avons vu plusieurs choses. Tout d'abord, qu'un terrain d'enquête se délimite en fonction des objectifs de l'enquête, mais également en fonction des contraintes pesant sur son déroulement. Deuxièmement, nous avons également vu comment choisir une population d'enquête et plus précisément encore, comment l'échantillonner si cela est nécessaire. Dans le prochain module, nous verrons comment choisir les techniques d'enquête en fonction des objectifs déterminés préalablement. Nous évoquerons principalement les raisons qui permettent de choisir soit l'interview, soit l'observation, soit le questionnaire, étant entendu que ce sont les trois grands modes d'investigation pour le sociologue. Je vous remercie pour votre attention.